Les titres du journal de la mi-journée présentés par Léa Journaux.
L'Aigle-les-Uns ne disparaîtra pas de sitôt du centre-ville Aiglon. Au moment du vote du plan directeur communal hier soir par le législatif d'Aigle, ce dernier a appris que le tracé des voies de chemin de fer ne pourra pas être modifié avant 2035. Le premier tour des élections de la future commune fusionnée de Blenay-Saint-Légier a amené son lot de surprises ce week-end. Le pourcentage de bulletins considérés comme nul a atteint les 12% pour le conseil communal et 7,6% pour la municipalité. L'économie vaudoise se porte bien, elle a fait preuve d'un dynamisme certain au cours des 15 dernières années, à en croire la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie. Le sport helvétique surfe sur une vague positive. Malgré la pandémie, Suisse Olympique tire un bilan positif des 18 derniers mois. Et en hockey sur glace, Lausanne a vaincu Berne hier soir à domicile.
Nébulosité en augmentation, bulletin météo complet en fin de journal.
Le plan directeur communal a été validé hier soir. Le règlement n'est pas obligatoire, mais les autorités ont souhaité le mener à bien afin de s'en servir de base pour le plan d'affectation communal. Certains conseillers s'étonnaient de constater que le tracé des voies ferrées ne comportait aucune modification, alors qu'il s'agit d'un dossier sur lequel travaille l'exécutif. Le syndic Grégory Devaux l'a ainsi révélé. Il ne sera pas possible de remanier le parcours avant 2035. Il l'explique au micro de Valérie Blom. Il est parti et il va revenir.
Qu'elles amènent. Par contre, ce qu'on sait déjà, aujourd'hui, on rendra public dans les prochaines semaines des informations sur les variantes et surtout les contraintes qu'elles amènent. Par contre, ce qu'on sait déjà, c'est qu'il n'y a pas de financement fédéral dans la planification actuelle. Donc, on parle d'un horizon 2035. Et c'est l'information que j'ai donnée au Conseil pour essayer de rassurer et pour finalement sécuriser aussi un plan directeur qui est établi aujourd'hui pour les 15 prochaines années. Notre plan directeur est compatible avec la situation actuelle. Et puis, je pense qu'il faudra se donner les moyens de pouvoir faire évoluer ou pas, mais positivement, les tracés ferroviaires, routiers de notre ville, mais post-2035, effectivement.
Le plan directeur communal a été accepté à 44 voix pour, 6 contre et 3 abstentions. À savoir aussi que le préavis relatif à l'adoption de la zone réservée du centre-ville a également été validé par le législatif Aiglon par un vote nominal de 44 voix pour 4 non, 1 abstention et 4 personnes récusées. Son objectif est de geler les constructions le temps que le plan d'affectation communal soit élaboré.
Et on reste dans les chiffres, 12 et 7,6%.
Effectivement, ces chiffres représentent le taux de pourcentage des bulletins considérés comme nuls lors du premier tour des élections de la future commune fusionnée de Blenay-Saint-Légier. Le premier 12% concerne le conseil communal, alors que le deuxième 7,6% est pour la municipalité. Des chiffres importants qui ont étonné le président du conseil communal de Saint-Légier, Jean-Luc Burgui.
Effectivement, c'était une grosse surprise. Énormément de bulletins nuls, c'est très dommage pour les citoyens qui ont essayé de voter et qui ont fait beaucoup d'erreurs.
Comment on explique ces erreurs, justement?
Alors, la grande majorité des erreurs sont des listes multiples mises dans l'enveloppe de vote, que ce soit pour le conseil communal ou pour la municipalité. Donc, c'était assez compliqué, je pense, pour le citoyen. Et pour simplifier les choses, j'imagine que beaucoup de citoyens ont pris plusieurs listes, tracer, modifier sur les listes pour éviter de recopier chaque fois les noms et n'ont pas fait attention qu'il n'était pas possible de mettre deux listes identiques.
Est-ce qu'il y a une explication qui vous vient à l'esprit déjà?
Alors sur la forme, non, c'est déjà arrivé souvent. Par contre sur le nombre, oui, c'est assez étonnant. L'explication à mon avis, c'est qu'il y avait beaucoup de candidats, il y avait beaucoup de listes. Et puis les gens ont peut-être été un petit peu dépassés, ont regardé le contenu, n'ont pas regardé les règles du jeu. Et puis, effectivement, si on veut cumuler ou tracer, rajouter, ça semblait plus facile de le faire probablement en ajoutant des listes. Et pour la municipalité, je pense qu'il y a encore un effet supplémentaire dans le fait qu'il a été livré presque une petite brochure avec chaque liste à l'intérieur. Et on a eu beaucoup de cas où des gens ont mis toute la liste et se sont amusés à tracer à l'intérieur de la liste en pensant « je vote qu'une fois probablement ». Donc il manquait probablement une explication claire qu'il faut qu'un seul bulletin par objet de votation.
Et ce sera chose faite puisque le canton a accepté la demande des communes de clarifier les explications de la méthode à suivre en vue du deuxième tour le 17 octobre prochain. À noter encore que les partis avaient jusqu'à hier pour déposer leur liste. Au total, ce sont 6 listes qui sont présentées pour 17 candidats à la municipalité.
La Banque cantonale vaudoise respecte l'égalité salariale entre hommes et femmes.
L'égalité, le constat justement provient d'une analyse effectuée par des experts externes. La banque annonce ainsi dans un communiqué respecter les exigences fixées par la LEG, la loi fédérale sur l'égalité hommes-femmes. Elle a également reçu la certification Fair on Pay Plus qui atteste de cette égalité sur la durée.
Une hausse du PIB d'environ 42% et un nombre d'emplois en augmentation de 31% entre 2005 et 2020.
L'économie vaudoise a fait preuve d'un dynamisme certain durant ces 15 dernières années, marquée par des crises à répétition, subprime, crise de la zone euro, crise Covid. Malgré tout, avec ces résultats, le canton de Vaud fait mieux que la Suisse ou les États-Unis sur la même période. Vaud est-il donc un modèle? Écoutez la réponse de Patrick Zurn, responsable économique à la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie.
On peut se considérer comme modèle et il faut voir le verre à moitié plein. Maintenant, c'est clair qu'il y a aussi des branches qui ont souffert ces dernières années. Et puis là, je pense actuellement aussi typiquement à l'hôtellerie-restauration qui en ce moment souffre encore très, très, très fortement. Mais c'est clair que le bilan global est très bon. Les politiques qui ont été menées jusqu'à maintenant ont aussi été bonnes. Et c'est clair que le bilan est très positif. Maintenant, il faudra voir aussi pour les années à venir si on parviendra à maintenir cette compétitivité, cette excellence aussi qui nous caractérise. Donc c'est un peu voilà, les challenges qui se posent à nous pour ces prochaines années.
La réussite du canton passe notamment par le développement d'activités à haute valeur ajoutée. La chimie pharma a notamment joué un rôle de premier plan, une valeur multipliée par 6. Autre point important, la diversité des secteurs de l'économie cantonale. Jean-Pascal Bechler, responsable de l'Observatoire BCV de l'économie vaudoise.
Les activités à haute valeur ajoutée sont un des piliers. Une des parties émergées, c'est les start-up, ces nouvelles entreprises. Et c'est bien parce que ça permet à notre tissu économique de se renouveler. Mais il y a aussi beaucoup d'activités à haute valeur ajoutée qui ont lieu dans des entreprises traditionnelles. Et ça, c'est moins visible, c'est moins célébré au jour le jour. Mais c'est finalement quelque chose d'extrêmement important. Vous avez des entreprises industrielles qui sont des fleurons dans notre canton. Et ça contribue à la résistance de ce canton. Mais il y a un autre aspect aussi, c'est une économie intérieure qui est robuste et diversifiée. Et ça stabilise aussi quand les marchés étrangers sont moins porteurs. Ça contribue à stabiliser notre économie. Et ça, c'est un autre avantage. C'est les avantages de la diversité.
Des propos recueillis par nos confrères de LFM, le principal moteur de la croissance entre 2005 et 2020 a été le secteur tertiaire. Il a contribué à hauteur de 3/4 à la hausse du PIB vaudois.
Les primes moyennes d'assurance maladie connaîtront une légère baisse l'an prochain dans le canton de Vaud.
Une annonce faite hier par le département vaudois de la santé et de l'action sociale. Tout modèle, classe d'âge et franchise confondues, la réduction moyenne correspond à 30 centimes par mois. À noter que la plupart des grands assureurs proposent soit la stabilité, soit une diminution. Seuls Assura, Concordia, Sana 24 et Sanitas vont augmenter leurs cotisations. Sur le plan national, la prime moyenne baissera de 0,2% en 2022 pour s'établir à 315 francs 30. Et dans le canton du Valais, même constat, après des années d'augmentation, la prime moyenne adulte baissera de 0,9%, soit 3,30 francs par mois. Elle s'établira à 356 francs, une diminution qui s'explique en grande partie par la pandémie de Covid-19. Elle a notamment provoqué une baisse dans les activités habituelles des hôpitaux et des cabinets médicaux, mais elle a également engendré un report sur les finances cantonales. Le Valais a en effet financé les coûts des établissements de soins engendrés par la crise sanitaire. Pour 2022, le Conseil d'État propose d'allouer près de 10 millions de francs de plus en faveur de la réduction individuelle des primes, ceci pour soutenir les personnes à revenus modestes. L'éventuelle double nationalité des parlementaires suisses et des conseillers fédéraux doit être rendue publique. Après le national, le Conseil des États a accepté aujourd'hui par 29 voix contre 12 un projet en ce sens. Le texte fait suite à une initiative parlementaire de Marco Chiesa, déposée en 2018. Selon lui, la double nationalité présente des avantages pouvant influer les parlementaires concernés. Elle doit donc être rendue publique, ce au même titre que les liens d'intérêt que les parlementaires doivent déjà annoncer, comme les liens avec différents organes ou commissions. La construction du second tube du tunnel routier du Gotthard a commencé. Quelques 150 invités ont assisté ce matin à son lancement officiel à Göschenen, dans le canton d'Uri. L'ouvrage, devisé à 2,14 milliards de francs, doit être inauguré dans 8 ans. Le début des travaux était prévu initialement au printemps dernier, mais il a été renvoyé à l'automne en raison de la pandémie. Le lancement officiel du chantier doit se poursuivre devant l'entrée sud du tunnel à Airolo, dans le Tessin.
Il est bernois. Après plus d'une année de vacances, la Suisse connaît son nouveau procureur général de la Confédération.
Effectivement, l'Assemblée fédérale a plébiscité le bernois Stéphane Blättler avec 206 voix sur 214 possibles. L'actuel commandant de la police cantonale bernoise, âgé de 62 ans, succédera ainsi au contesté Michael Lauber, poussé vers la sortie en été 2020. Il avait ensuite fallu 3 tours de recherche de candidature avant que la commission judiciaire arrête son choix sur l'expérimenté Stéphane Blättler. De quoi ramener du calme au ministère public. Le Genevois Christian Lucher, membre de la commission judiciaire.
C'est un signe d'apaisement de la part de l'Assemblée fédérale d'avoir élu M. Blättler avec une majorité aussi forte qui frise l'unanimité. Et c'est aussi la démonstration qu'après un certain nombre de péripéties, la commission judiciaire est allée chercher la bonne personne pour le bon poste. Et ça va permettre maintenant effectivement de remettre le ministère public de la Confédération hors la vue des médias, dirais-je. Et puis à l'intérieur, je crois qu'on attend avec une certaine impatience qu'il y ait un nouveau chef, précisément pour pouvoir travailler sereinement, cela étant le ministère public de la Confédération. A très bien fonctionné ces 2 dernières années, mais je crois que c'est bon pour les institutions, à l'intérieur et à l'extérieur, qu'on est maintenant un procureur général de la Confédération fort et respecté.
Stéphane Blättler, le choix de la grisaille, titré dernièrement Le Temps. Le nouveau procureur général de la Confédération n'a rien de son flamboyant prédécesseur Michael Lauber. C'est justement pour cela que c'est la bonne personne, selon la fribourgeoise Ursula Schneider-Schüttel. Elle aussi est membre de la commission judiciaire.
On a vraiment cherché les bonnes personnes. On a eu plusieurs candidatures à plusieurs parties de la procédure. Mais là, c'était pas trop clair. Il faut vraiment une personne qui est capable de répondre à toutes ces exigences dans tel poste. Et puis si on élit une personne qui est contestée quelque part, ça l'affaiblit. Il faut pas quelqu'un pour lequel c'est un but, un objectif de chercher les médias. Je pense que c'est vraiment nécessaire d'apporter un peu plus de calme au ministère public.
Des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Serge Jubin. Les chômeurs en fin de droit ne devraient pas être comptabilisés dans la statistique du chômage établie par le SECO. Le Conseil des États a enterré hier une motion du Conseil national qui visait une vue plus complète du marché du travail.
La pandémie liée au coronavirus a ralenti la semaine dernière dans le monde.
Le nombre de nouvelles infections a reculé de 8% en une semaine, alors que celui de nouvelles victimes a diminué de 7%. Selon des données publiées aujourd'hui à Genève par l'Organisation mondiale de la santé et qui portent jusqu'à dimanche, plus de 3,3 millions de nouvelles infections ont été observées dans les différents pays. La Méditerranée orientale a pu s'appuyer sur la baisse la plus importante. Presque toutes les régions ont vu un recul qui dépasse les 10% par rapport à la semaine précédente. En revanche, la baisse n'atteint que 1% en Europe. Plus de 670 institutions financières européennes ont été impliquées ces 3 dernières années dans des transactions avec des entreprises liées aux colonies israéliennes dans les territoires palestiniens, illégales au regard du droit international, affirme aujourd'hui une vingtaine d'organisations dans un rapport. Au total, 250 milliards de dollars, soit environ 237 milliards de francs, ont été engagés dans des transactions entre ces institutions financières, des banques, des assureurs, des fonds de pension et ces entreprises liées aux colonies israéliennes, d'après un rapport préfacé par le rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens.
La Russie menace de bloquer YouTube après la suspension de la chaîne de télévision publique RT.
Le gendarme des télécoms russe Roskomnadzor a menacé YouTube de blocage si ce dernier se refusait à lever la suspension des comptes allemands de la chaîne de télévision publique russe RT. Suisse Olympique veut capitaliser sur les excellents résultats obtenus au JO de Tokyo cet été. Avec 13 médailles décrochées, les athlètes helvétiques avaient brillé. Et pour l'association fêtière du sport suisse, ces performances doivent s'inscrire dans le temps. Il s'agit donc d'entreprendre les démarches nécessaires pour faire aussi bien, voire mieux, lors des prochaines Olympiades. Reste que la pandémie de Covid-19 pourrait venir jouer les troubles faits dans le monde du sport d'élite. Jürg Stahl, président de Suisse Olympique, revient sur les éventuels impacts que la crise sanitaire risque d'avoir dans ce domaine.
C'est difficile à répondre parce qu'on a eu une phase que tous les acteurs dans le sport suisse ont se trouvé dans une situation complètement nouvelle. Une discipline qu'on n'a pas eu connaissance avant, on n'a pas s'entraîné sur ça et ça donne du substance, pas seulement au niveau financement mais aussi au niveau pour les gens qui travaillent dedans. Et je suis content d'avoir beaucoup de gens qui travaillent pour le sport suisse et qui ont fait un excellent boulot dans les années passées, pas seulement hier ou avant-hier, que c'est un système qui est stable depuis 10 ou 20 ans.
Pour limiter les dégâts dans le sport de performance, comme dans le sport de masse, la Confédération a notamment débloqué des fonds importants. Pour l'année 2021, un paquet de stabilisation de 150 millions de francs est prévu. Mais les fédérations, les clubs et les athlètes suisses ont-ils encore besoin d'un soutien financier? Écoutez la réponse de Roger Schnegg, directeur de Suisse Olympique.
Ce n'est pas la Confédération qui peut régler tous les problèmes au niveau des finances pour tout le sport suisse. Mais je pense, au moment où on voit qu'on a surtout aussi des problèmes en 22, alors pour l'année prochaine, certains clubs, ils ont des problèmes, ou certains sports ont des problèmes pour qu'ils perdent des membres. Et c'est ça un problème en long terme. Alors là, il faut régler aussi comment on peut utiliser éventuellement l'argent de cette package pour l'année prochaine, ou bien si on a besoin de plus pour investir dans la future.
Pour limiter des propos recueillis par Julien Traxel pour Suisse Olympique. Et la prochaine échéance dans le domaine du sport d'élite est prévue au mois de février. Pékin accueillera alors les 24e JO d'hiver.
En hockey sur glace, Lausanne a peut-être montré son vrai visage hier soir à la Vaudoise Arena.
Appliqués et sérieux, les joueurs de John Foust ont disposé du CP Berne sur le score de 4-1. Un résultat qui a plu au certes maigre mais bruyant public lausannois. Ce dernier s'est d'ailleurs même fait entendre pendant que Guillaume Maillard livrait ses impressions. On écoute l'attaquant du LHC, auteur hier du premier but de la rencontre.
Je pense que c'est le premier match où on joue vraiment ensemble. Les 5 joueurs sur la glace, ils savent ce qu'ils doivent faire du début jusqu'à la fin. Et ça, c'est très important. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit avant déjà, une équipe, ça se construit pas en deux, trois matchs. Il faut laisser du temps, il faut avoir de la patience. Et il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs dans l'équipe cette année-là. Donc, on sait que ça allait venir. Et aujourd'hui, on a vu un petit aperçu de ce qu'on peut faire.
Votre ligne avec Florian et puis Emilius, elle fonctionne bien. On voit que peut-être vous connaissez bien. Comment vous vous êtes sentis les trois aujourd'hui?
Ouais, moi, ça fait longtemps que je joue avec Flo. Donc, je sais comment il joue. Ensuite, Emilius, on apprend à jouer avec lui gentiment, mais nous on essaie de jouer assez simple. On met les pucks sur le but et on va devant le but. Après, on a eu un bon match et j'espère que ça va continuer pour les prochains matchs.
Guillaume Maillard au micro de nos confrères de LFM. Désormais 10e du championnat, la formation Lémanique jouera encore chez elle vendredi. Elle recevra Zurich, équipe qu'elle défiera à 19h45.
Et avant de passer à la météo, petite question, vous avez jamais envisagé de faire des études de mathématiques ou de devenir actuaire?
Alors pas vraiment, non.
Parce que les chiffres aujourd'hui, ça y allait. Hein.
C'est ça, oui, journal 100% chiffres, c'était merveilleux.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. La météo avec Romande Énergie et ses solutions innovantes pour panneaux solaires, boilers et pompes à chaleur. Romande-énergie.ch.
Alors, qu'en est-il du ciel? Autant vous dire que, ouais, ça se gâte. On a eu passablement d'éclaircies ce matin et on nous annonce que cet après-midi, la nébulosité va aller en augmentant et que peut-être même cette nuit, nous aurons droit à quelques averses, et ce durant la soirée. Autrement, pour ce qui est des températures, elles sont fraîches pour la saison, et ça, vous l'aurez certainement constaté. Si vous restez en plaine, on culminera entre 13 et 18 degrés. Si vous grimpez un petit peu à 1000 mètres, 8 à 14, et à 2000, 2 et 6 degrés. Autant profiter quand même de cette journée, hein. C'est mercredi, peut-être que vous avez congé, donc allez faire un tour, simplement, vous vous habillez en conséquence. Quant à moi, je vous souhaite une bonne suite de journée avec Radio Chablais. Profitez de cet après-midi et je vous dis à la prochaine. Bye bye.